Bienvenue dans l'émission Loin des clichés, un podcast qui vous présente les histoires de vie des personnes accompagnées par l'association Le Mile. Dans chaque épisode, nous vous invitons à découvrir les galères, les défis, mais aussi les revanches sur la vie de parcours atypiques. L'association Le Mile a pour but de préserver et d'améliorer la santé des personnes présentant des conduites addictives, des maladies chroniques et d'accompagner aussi leur entourage.
Alors aujourd'hui, on reçoit une invitée un peu spéciale. Lorraine, tu es pas inconnue dans les studios de Radio Campus. Bonjour déjà.
Bonjour.
On s'est vu déjà plusieurs fois parce que en fait, tu encadres, tu as co-construit ce projet-là, qui est le projet Loin des clichés, ce podcast pour lequel on est ensemble aujourd'hui. Tu es chargée de projet à l'association Le Mail, c'est ça?
C'est ça. Oui.
Et aujourd'hui, tu es ici pour quelque chose d'un peu spécial puisqu'en fait, c'est on est dans une semaine de sensibilisation nationale autour des TCA. Les TCA, c'est quoi? C'est les troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, tu as décidé de venir nous en parler. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
De parler de ton expérience.
De mon vécu, oui.
Tu peux commencer par me raconter un peu pourquoi tu as eu cette envie de témoigner?
Comme tu disais, je suis pas une personne accompagnée par l'association. J'y travaille depuis 6 ans. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer les personnes qui ont témoigné à travers ce podcast. Et le fait d'avoir été investie dans ce projet, ça m'a aussi fait prendre conscience que moi aussi j'avais envie et même besoin de partager mon expérience autour des TCA et puis de sensibiliser aussi sur ce que c'est. Moi particulièrement, c'est la boulimie. Donc voilà, sensibiliser sur la boulimie.
D'accord. Et toi, comment ça a commencé? Ça.
Alors en fait, je trouve que c'est apparu assez tard. On entend souvent dire que ça arrive à l'adolescence, etc. Bon, moi, j'avais déjà 20 ans quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et à l'époque, j'étais à la fac, donc j'étais en licence. Et j'ai commencé par faire médecine. Et puis, il y a déjà 15 ans, d'ailleurs, quand j'y pense, ça passe vite. J'ai arrêté au premier semestre, en fait, parce que, donc au bout de 6 mois, parce que j'y étais pas bien. Ce que j'apprenais, je trouvais ça super intéressant. Par contre, en fait, c'était l'ambiance qui ne m'allait pas, ce côté un peu, tu sais, élite fêtarde. La concurrence, parce que y a des classements, et puis en fait je me sentais complètement à côté de tout ça, puis en plus j'étais loin dans le classement, donc j'ai abandonné et je me suis redirigée vers une licence en biologie humaine parce que en fait je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, je savais pas du tout, donc je me suis lancée dans une licence qui ressemble vraiment à ce que j'appréciais, la biologie, etc. Et puis c'était le flou total. J'avais toujours ce sentiment de décalage. J'avais envie de rien. Je pense, en fait, avec le recul, j'étais assez déprimée. Et puis après, il y a eu le décès de mon papy. Donc, en fait, l'accumulation, le fait d'être complètement perdue et puis ce décès, ça m'a fait commencer à manger, mais à manger beaucoup. Et en fait, juste parce que ça me faisait du bien sur le moment, quoi. J'avais besoin de ça, ça me procurait du plaisir, donc je me suis un peu réfugiée dans la nourriture. Et en fait, déjà, faut savoir que en dehors des TCA, je suis de nature assez gourmande, donc j'adore manger. C'est le meilleur moment de la journée pour moi, mais en fait, c'est devenu, avec les troubles alimentaires, c'est devenu le pire moment de la journée. Mmh. Et là, on n'était plus du tout sur de la gourmandise, on était vraiment sur de l'excès plus. Bref, je mangeais de plus en plus et en fait, il y avait mon copain à l'époque qui m'a fait une remarque sur le fait que j'avais pris du poids. Donc, c'était assez bienveillant. Il m'a juste dit, dis donc, Lorraine, t'aurais pas pris un peu de poids? Et il avait raison, j'en avais pris. Et je me souviens, je me suis regardée dans le miroir et en fait, j'ai détesté ce que je voyais. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. J'ai l'impression que du jour au lendemain, soit je m'étais pas regardée avant, soit je voulais pas voir, mais vraiment du jour au lendemain, j'ai détesté mon reflet, et en fait, j'ai commencé à avoir une très mauvaise image de moi, de ce que ça renvoyait, parce que, autant on peut foutre un peu plus la paix aux femmes qui sont plutôt fines ou qui ont une corpulence normale, et encore, que, en fait, quand on commence à avoir un peu de surpoids ou plus, on est pointé du doigt. Et moi, ce que je voulais à l'époque, c'était qu'on me foute la paix. Je voulais pas être pointé du doigt. Moi, je voulais juste pouvoir continuer à manger. Mmh. Et pas avoir de remarques, donc que ça se voit pas. Et pour pouvoir continuer à manger sans que ça se voit, j'ai commencé à me faire vomir, tout simplement.
D'accord. Donc ça a été là où tu as commencé à remarquer que tu avais un trouble alimentaire, c'est à partir de ce moment-là?
Oui, parce que en fait, je commençais à manger de plus en plus, je vomissais donc de plus en plus. Et en fait, ouais, c'est le fait de voir la quantité que ça commençait à prendre, le fait que ça, c'était de plus en plus souvent. Je me suis dit, ouais, en effet, là, il y a un souci, et j'ai très vite mis le mot dessus, le mot boulimie. Il est arrivé assez vite dans mon esprit, et voilà.
Donc, tu savais ce que c'était, tu as identifié, en fait, directement.
Oui.
Comment ça se traduit, les troubles du comportement alimentaire au quotidien, dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie sociale?
En fait, à ce moment-là, c'est devenu un stress permanent. C'est-à-dire que je pense à la nourriture tout le temps. Dès le réveil, je pense à ce que je vais manger aujourd'hui. Quand est-ce que je vais pouvoir faire une crise? Comment? Avec quoi? Je pense sans cesse, en fait, à ce qui reste dans les placards. Je réfléchis toujours, voilà, à ce qu'il y a dans les placards, dans le frigo. Des fois, ça me réveille même, en fait, parce que j'ai des angoisses. Et oui, c'est un stress permanent, en fait, avoir assez de nourriture. Hein, parce que, en fait, plus le temps passait et plus je venais à manger des quantités vraiment gargantuesque, c'est pas juste le fait de se resservir une deuxième fois, c'est voilà, pour imaginer, c'est des casseroles entières de pâtes, de riz, de vraiment tout ce qu'on peut imaginer, des choses qui n'ont aucun sens, du sucré, du salé, mais c'est des quantités, je pense que personne ne peut manger ça sans se faire mal au bide, quoi. Mmh. Et moi, clairement, voilà, je mangeais à outrance jusqu'à en avoir mal. Et donc, manger, ça coûte de l'argent. Et moi, étudiante, j'avais pas un rond. Donc, en fait, c'était aussi cette angoisse de compter ces petites pièces pour pouvoir aller acheter, peu importe, ce qui va me remplir le ventre. Et après, voilà, je songeais aussi beaucoup au fait de pouvoir avoir un moment seul. Parce que, voilà, dans l'idéal, pouvoir manger tranquillement et puis pouvoir soulager cette envie répressible, vraiment, cette compulsion de manger. Et puis ensuite, aller aux toilettes pour vomir. Donc voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que je puisse à tout prix avoir ces moments-là. Et si ça se passait pas, parce que voilà, soit on vit pas seul, soit on est chez ses parents, soit il y a le conjoint, soit voilà, et on peut imaginer tout un tas de situations. Ça se passe rarement comme ça. Donc en fait, c'est angoissant. Tout devient une angoisse. Et puis voilà, faire attention à pas se faire remarquer aussi, parce qu'on veut pas que ça se sache.
Et pour ta vie sociale, du coup, ça s'est passé comment? Comment tu gères ce trouble-là et en même temps, une vie quotidienne, une vie sociale?
En fait, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, dans le sens où j'ai réussi quand même à avoir des amis. J'ai quand même réussi à valider mes diplômes. Mais par contre, ça m'a quand même vachement isolée, parce que je me suis repliée beaucoup sur moi. Le fait de vivre avec un secret, moi, je m'identifiais vraiment comme juste une personne boulimique, et je ne me voyais qu'à travers ça. Et les autres ne savaient pas. Donc, du coup, il y avait un décalage, et j'ai refusé énormément d'invitations, de soirées. Voilà, je suis passée à côté d'un tas de choses de ma vie étudiante, en fait. J'ai détesté cette période. Souvent, les gens ne comprennent pas, de dire la vie étudiante, c'est la meilleure période, mais pour moi, ça a été la pire, en fait, à cause de tout ça. Et je préférais, en fait, m'isoler chez moi, à manger à outrance, et puis à passer ma soirée aux toilettes, et puis voilà, quoi. Mmh. Ça se résumait à ça.
Et est-ce que tu as eu des conséquences un peu physiques, par exemple, aussi?
Oui. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas, mais déjà, j'avais pas mal de soucis à l'estomac, parce que, à force de l'étirer au maximum, et puis après de le rétrécir, de l'étirer, enfin voilà, j'étais tout le temps inflammée au niveau de l'estomac. Pareil, l'œsophage en permanence inflammé. Je me suis déjà retrouvée aussi en carence de potassium. Et dit comme ça, ça paraît pas grand-chose, mais si la carence est trop importante, on peut faire des crises, enfin des arrêts cardiaques. Et puis énormément fatiguée, une grosse fatigue chronique. Et dérèglement hormonal aussi, je me suis retrouvée plein de fois à pas avoir mes menstruations, en fait, parce que j'étais complètement déréglée. Donc voilà, en fait, et puis la santé mentale, après, voilà, elle en prend forcément un coup aussi. J'étais complètement, tout mon esprit était bouffé par le fait de penser tout le temps, c'est d'avoir cette obsession sur ce que j'allais pouvoir manger ou pas, est-ce que j'allais pouvoir vomir ou pas, et puis l'apparence de mon corps, et puis la culpabilité, en fait. Donc tout ça combiné, ça a été vraiment très très dur.
Tu le dis un peu quand on a parlé un peu plus tôt entre nous, tu dis un peu que c'est une guerre que tu as pu mener en silence. Est-ce que tu peux me parler de cette guerre ?
Ouais, pour moi, c'est vraiment une guerre intérieure qui te bouffe. En fait, souffrir des troubles alimentaires, c'est mener une guerre en permanence contre son corps, contre ses pensées, contre soi-même. Et ben en fait, voilà, le matin, tu te réveilles avec l'angoisse de ce que tu vas manger et le soir, tu te couches avec la culpabilité de ce que tu as fait. Et donc, voilà, t'as honte, tu te sens bête, tu te sens pas comprise parce qu'en même temps, t'en parles pas. Enfin, c'est des choses que voilà, tu vis en silence parce que, ben voilà, peur de pas être compris, peur qu'on te trouve sale parce qu'il y a rien de sexy dans le fait de vomir et de manger à excès. Voilà, ça donne pas envie, quoi, clairement. Et puis aussi, ben, tu veux pas inquiéter pour rien parce que tu te dis toujours il y a pire. Et puis à la fois, tu veux pas qu'on prenne ça à la légère. En fait, paradoxalement, voilà, tu te dis il y a pire, mais en même temps, toi, tu vis tellement un enfer que je sais que moi, j'aurais pas supporté en fait qu'on me dise c'est bon, voilà, t'es pas grosse, t'es pas maigre, t'as pas besoin de vomir. Mais voilà, c'est pas qu'une question de bouffe, en fait, c'est ni une question de volonté. C'est les troubles alimentaires, la boulimie, c'est une maladie, en fait, et c'est une addiction à un comportement. Qui voilà, ce comportement qui te fait survivre en fait parce que tu vas pas bien.
À quel moment dans tout ça, à quel moment tu as décidé de demander de l'aide et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire?
J'ai demandé de l'aide. Je sais pas si on peut dire que j'ai demandé de l'aide, mais j'en ai parlé déjà. J'ai réussi à en parler à ma sœur de qui je suis très proche et forcément elle m'a beaucoup soutenue et elle a voulu m'aider. Et elle a pris rendez-vous pour moi au CHU de Lille, si je me souviens bien, c'était il y a plusieurs années déjà. Et elle m'a accompagnée jusque là-bas. Et bon, moi, j'avais absolument pas envie de ça. Moi, voilà, je voulais juste besoin d'en parler. Par contre, j'avais même pas envie de sortir de ça en fait, parce que même si j'en souffrais, c'était rassurant. Je savais, voilà, ce qui allait se passer. Je savais ce qu'était mon quotidien et vivre sans. Sans les crises alimentaires, sans les vomissements, tout ça, en fait, ça me faisait peur parce que je savais même plus ce que c'était. Donc, j'avais pas envie de ça. Mais je l'ai fait pour elle et pour lui faire plaisir et pour qu'elle arrête de s'inquiéter aussi, parce que forcément, les proches, voilà, ce qu'on dit pas aussi, c'est que les TCA, c'est une maladie qui vient englober, en fait, qui vient emporter toute la famille avec, en fait. Bien souvent, c'est tout l'entourage qui est impacté. Et donc, voilà, arrivé au CHU de Lille, j'ai eu un entretien avec une infirmière, et puis avec un médecin, et en fait, qui m'a dit que c'était pas assez grave. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'était que mon cas ne nécessitait pas une hospitalisation. Ils avaient l'habitude, eux, de traiter des cas plus sévères. Donc en fait, je pense que ils ont dû me réorienter vers un autre service peut-être plus proche de chez moi à Amiens, mais je me souviens même plus en fait parce que moi j'ai retenu juste
que c'était pas assez grave,
c'est ça. Et du coup j'ai baissé les bras et je me suis dit en fait je vais rester là-dedans et ça ira très bien quoi.
D'accord. Et comment tu as fait pour justement dépasser tout ça ensuite?
Ben voilà, après le temps passe, c'est toujours le même quelotidien et puis quelques temps après, j'ai toujours sur les conseils de ma sœur, elle m'a emmenée voir son médecin généraliste qui était super à l'écoute et donc du coup j'ai dit ok, je vais la voir parce que je pense que c'était aussi un moment où j'avais besoin d'être écoutée et puis il y a toujours des périodes où on a envie de s'en sortir même si c'est pas facile. Donc j'étais dans cet état d'esprit et je suis allée voir ce médecin qui a été en effet très à l'écoute et qui m'a orientée voir un hypnothérapeute. Donc voilà, j'y suis allée sans conviction parce que je me suis dit bon allez pourquoi pas, foutu pour foutu, on y va. Et donc cet hypnothérapeute m'a dit c'est pour ça, en gros ça c'est rien du tout, vous allez voir en deux séances c'est réglé. Donc j'ai fait les gros yeux et en fait je me suis dit donc là on est en train de me dire que je souffre depuis des années et en fait il suffirait de deux séances d'hypnothérapie pour ça y est, tout va mieux quoi. Donc c'est tout, je fais une séance, aucun changement, et je fais une deuxième séance et là apaisement, plus de crise, je n'allais plus vomir. Donc, je continuais à avoir quelques pulsions alimentaires, bien sûr, de temps en temps. Mais voilà, rien d'excessif et je gérais. Et donc, du coup, avec le temps, ça m'a permis à réapprendre à manger. Ça m'a permis à me faire prendre conscience que j'étais capable de vivre sans aussi et que ça allait très bien. Donc, ça a duré 1 an et demi. Donc, ça m'a permis de faire une grosse pause dans la maladie. Ça a été top. Et puis, après, grosse rechute. Voilà, j'ai traversé aussi un moment de vie qui m'a chamboulée. Et voilà, j'étais seule dans mon appartement à Dijon à l'époque. Et c'était. Voilà, je me sentais seule, je me sentais mal, en colère. Du coup, j'ai mangé. J'ai avalé tout ce que je trouvais dans les placards et tout. Et puis, je me suis remis à vomir. Et à partir de ce moment-là, voilà. Ça a été comme si je n'avais jamais arrêté, alors que ça faisait 1 an et demi que ça allait beaucoup mieux. Mmh. Et donc, grosse déception, en fait, de se dire, mais comment ça peut aller bien pendant quand même assez longtemps, et puis, en un claquement de doigts, ça y est, tout revient, quoi. Mmh. Donc, ça a été difficile, mais au final, ce que je retiens de cette période-là, c'est que, déjà, ça a été une période de mieux, donc ça m'a fait du bien. Et puis, cette rechute, elle m'a fait prendre conscience que j'étais capable de passer des journées, des semaines et des mois entiers, voire même sans manger et vomir, voilà, sans faire de crise. J'avais un comportement alimentaire qui était normal. Et oui, comme j'ai dit, en fait, on oublie tellement ce que c'est de vivre sans la boulimie qu'en fait, je pense que ça m'a fait du bien quand même, malgré tout. Donc, j'en retire une expérience positive, même si la rechute a été terrible. Par contre, du coup, moi, je pense que pour que ce soit bénéfique quand même sur le long terme, il faudrait une psychothérapie. Pour moi, c'est indispensable parce qu'en fait, ce que ça m'a appris aussi, cette rechute, c'est que finalement, je me suis retrouvée dans un moment de difficulté et en fait, j'avais pas les clés pour faire face à cette difficulté-là. Donc, il m'a manqué quelque chose. Peut-être que j'aurais pu avoir sans cette solution miracle de l'hypnothérapie, mais avec quelque chose de plus profond, plus approfondi.
Et t'as jamais fait appel à quelqu'un, un psychiatre ou un psychologue, justement, depuis ?
Alors, psychiatre, non, mais plus récemment, du coup, j'ai un suivi avec un psychologue. Et du coup, ça me fait énormément de bien. C'est pas que sur la boulimie, finalement, mais plus sur moi, sur ce que je suis en tant que personne, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins. Et donc, de pouvoir avoir les clés pour faire face à toutes sortes de difficultés qui font qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire de crise de boulimie pour me sentir bien.
Ouais. Et justement, aujourd'hui, t'en es où avec les TCA ?
Aujourd'hui, du coup, ça va bien mieux. J'ai quand même fait une rechute l'année dernière, après 3 ans sans vomissement. Donc, j'étais hyper fière de moi et je me suis même dit, c'est derrière moi, en fait. Et rechute qui n'a pas duré longtemps, quelques mois. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, que j'ai, je pense, heureusement, eu le réflexe d'aller voir un psy et du coup, de commencer cette thérapie. Et très vite, en fait, très vite, ça a disparu. Donc voilà, là, ça fait des mois que j'ai pas eu de crise de boulimie, mais du coup, je reste vigilante parce que je sais que c'est fragile. Je sais qu'à tout moment, ça peut revenir. Donc voilà, mais mon expérience fait qu'aujourd'hui, j'aurai, je pense, les bons réflexes si jamais ça devait revenir demain.
Et justement, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir?
Après, ça peut paraître cliché ce que je vais dire, mais en fait, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est le travail d'introspection que j'avais commencé à faire pour comprendre qui je suis. C'était en janvier 2020. Je suis partie seule avec mon sac à dos pendant 3 semaines en Argentine. J'ai visité la Patagonie, je suis allée au bout du monde parce que je suis allée à Ushuaia, donc du coup, je peux vraiment dire que je suis allée au bout du monde. Et ce voyage a été vraiment thérapeutique pour moi. J'étais sur la bonne voie, vraiment, à ce moment-là. Sauf qu'il y a eu le Covid, après, quand je suis rentrée. Et les confinements, et ça a été vraiment dévastateur. Du coup, je suis pas allée au bout du chemin. Donc, ça s'est arrêté. La boulimie a repris, etc. La vie a continué. Après aussi, ce qui m'a permis de m'en sortir, je pense, et là, c'est le deuxième cliché, mais c'est le fait d'être devenue maman. Parce que me voir évoluer en tant que maman, ça a été super bénéfique pour moi. Déjà, j'ai toujours pensé que je pourrais jamais tomber enceinte. Parce que tous les dérèglements hormonaux que j'ai eus, etc. Et puis même en dehors de ça, je me sentais même pas capable de devenir maman parce que pour moi, c'était inconcevable de vivre à la fois la parentalité et la boulimie. C'était pour moi, j'aurais pas réussi. Et finalement, je suis tombée enceinte, donc en 2021. Et le premier trimestre, quand même, il y a quelques crises qui ont perduré. Mais et ça a été très compliqué d'ailleurs ce premier trimestre parce que le corps, il change. Oui. T'as pas encore ce ventre tout rond, tout beau que tu peux montrer fièrement. C'est juste, en fait, tu prends du poids et toujours ce rapport au corps, en fait, qui est compliqué. Donc, ça a été vraiment difficile à vivre. Et puis après, il y a eu la première échographie, donc à la fin du premier trimestre, où finalement, j'ai compris que mon corps était en train de fabriquer la vie et que c'était un truc de dingue, en fait, que mon corps avait des ressources incroyables et que je pouvais lui faire confiance, que c'était pas juste l'apparence de ce à quoi mon corps ressemble, en fait. C'est ce qu'il est capable de faire pour moi. C'est ça le plus important. Donc je me suis un peu détachée de l'apparence physique. Et puis voilà, aussi le fait d'avoir allaité ma fille pendant un an, ça aussi, ressource incroyable, quoi. Donc mon corps est capable de faire des trucs de dingue.
Et tu t'es réconciliée avec ton corps pendant tout ça, quoi, pendant ta grossesse et aussi après, quoi.
Ouais. Après, je suis consciente, j'ai eu la chance de perdre mes kilos de grossesse assez vite. Si ça n'avait pas été le cas, je ne sais pas comment ce serait passé, honnêtement. Est-ce que j'aurais eu encore une période de est-ce que j'aurais mal vécu le fait de garder ces kilos, comment j'aurais vécu ça, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, devenir maman, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. Ce qui est sûr aussi, c'est que la parentalité, c'est pas une promenade de santé. Et que ça peut être parfois très compliqué, ça nous repousse dans nos retranchements tout le temps. Et finalement, je peux dire que c'est une expérience, la parentalité, dont je peux m'inspirer parce que finalement, ça m'apprend à faire face à la difficulté, encore une fois. Donc, je peux transposer ça sur tout et toutes les problématiques, dont la boulimie et les TCA, en fait. Et autre chose qui m'a aidée aussi dans le quotidien, c'est le sport. Et ça, j'ai toujours aimé faire du sport, mais j'ai vraiment repris, du coup, il y a 2 ans. Et la course à pied, le crossfit. Je me suis vachement investie en m'inscrivant à des courses. J'ai couru le semi-marathon de Lille il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est bête, mais c'est des petites victoires qui font que, en fait, t'es fière de toi. Encore une fois, ton corps est capable de faire des trucs de dingue. Et je m'inscris à des petites compétitions de crossfit, etc. J'envisage même de faire l'aérox à la fin de l'année. Et en fait, le sport, c'est mon exutoire. J'en ai besoin. Et je me suis même rendu compte que... les jours, pendant que j'étais vraiment malade dans ma phase boulimique plus, les jours où je faisais du sport, j'arrivais même des fois à ne pas faire de crise de boulimie, en fait. Parce que, je pense, j'avais ma dose d'endorphine, j'avais ma dose de dopamine. Et voilà.
Tu te sentais bien à ce moment-là,
ouais,
grâce
exactement.
Au sport.
Donc, aussi, le sport, ça m'a permis de... non pas de perdre du poids, mais de pas en prendre. Donc aussi de pouvoir ne pas avoir une mauvaise image de moi, parce que ça reste toujours fragile, hein, même si après je reste comme tout le monde. Il y a des jours où on ne peut pas se voir en peinture et d'autres où ça va. Donc,
oui,
mais quelquefois, les jours où on ne peut pas se voir, chez moi, ça peut renvoyer quelque chose d'un peu plus violent. Et du coup, je reste toujours très vigilante par rapport à ça.
Et si tu pouvais parler à la personne que tu étais en pleine souffrance, tu lui dirais quoi ?
Question, je lui dirais, fais-toi confiance et reprends le pouvoir sur ta vie. En fait, je lui dirais que oui, c'est difficile et parfois ça peut être très long. C'est difficile de comprendre qui on est, de savoir identifier quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, etc. Mais c'est tellement important, en fait, de s'autoriser à vivre et entreprendre toutes les choses qui nous font nous sentir bien et qui sont en accord avec nos valeurs. Donc je dirais vraiment de se focaliser là-dessus et de ne jamais abandonner. Et qu'un jour, elle sera cette personne alignée, solaire et heureuse.
Et qu'aimerais-tu dire aux personnes qui se sentent concernées par ta vie, par tout ça, par tes étapes de vie et de tout ce que tu viens de nous raconter ?
je leur dirais que c'est important d'ouvrir les yeux sur, sur ce que sont les TCA. Et c'est une maladie de santé mentale, c'est une addiction même à un comportement. Voilà, c'est une forme d'automédication aussi, même quand on sait que ça nous détruit, on a du mal à s'en passer. Et c'est pas une simple mauvaise habitude ou une question de volonté, c'est une vraie dépendance. Voilà, même si bien souvent elle est invisible, c'est une vraie dépendance. Donc déjà de déculpabiliser parce que ben c'est pas de notre faute en fait, tout simplement, de pas avoir honte. Et puis voilà, ne pas minimiser ce qu'elles sont en train de vivre parce que peu importe le trouble alimentaire, en fait, peu importe son intensité, même les troubles alimentaires, ça impacte toute notre vie entière. Et puis, ça peut avoir de lourdes conséquences aussi. Je pense que j'aimerais aussi rappeler l'importance d'être bien accompagné, mais surtout l'importance d'être le véritable acteur de sa vie. Parce qu'on peut, s'engager dans une démarche de soins, vouloir se faire aider, pour faire plaisir aux autres, comme moi, ça a été le cas pour faire plaisir à ma famille. Mais voilà, moi, j'ai bien vu le résultat, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a plein d'autres expériences qui pourront aussi voilà, témoigner qu'il n'y a rien de plus durable dans le temps que de faire les choses pour soi. Et puis surtout, stopper le tabou. C'est vraiment l'objectif de ma prise de parole, c'est d'en parler. Voilà, je ne suis pas venue juste raconter... ce que j'ai vécu, je suis juste venue en parler pour qu'il y ait d'autres personnes qui se reconnaissent et puis qu'elles se disent qu'elles ne sont pas toutes seules, ne plus avoir honte. Et voilà, on ne se définit pas par la maladie. Voilà, c'est pas les troubles alimentaires qui nous définissent, mais c'est juste ce qu'on est nous et c'est à nous de le découvrir.
Et pour finir, on choisit toujours, enfin en tout cas les invités choisissent toujours une musique. Et est-ce que tu t'es dirigé vers un artiste, toi, Ben Majué, si j'ai bien compris?
Oui.
Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cet artiste et quelle chanson tu as choisi?
Alors déjà, Ben Majué, c'est un interprète, un chanteur que j'aime beaucoup parce qu'il a une façon d'écrire, voilà, c'est que j'adore. Enfin, je trouve que je me suis toujours beaucoup retrouvée dans ses textes. Ça me parle beaucoup. Et là, son dernier album, Famille, qui parle d'un tas de choses, mais qui parle aussi beaucoup, je trouve, d'addiction. Je trouve qu'il fait le lien avec ce qu'on peut vivre quand on a une addiction. Alors, quelquefois, on peut reconnaître que c'est voilà, une addiction à l'alcool, mais en fait, finalement, ces mots, en fait, ils sont transposables à toutes les addictions. Et il y en a une qui me parle beaucoup, c'est résolution, où finalement, en fait, c'est une personne qui, je pense, a rechuté et qui s'en veut énormément, qui est dans la culpabilité et qui se promet que demain, ça ira mieux. Donc, il parle à sa conscience et sa conscience lui répond. Et surtout, en fait, sa conscience lui répond que finalement, qu'il soit dans l'abstinence ou dans la consommation, la conscience l'aimera toujours. Et ça, c'est, je trouve que c'est super beau et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, en fait.
Eh ben super. On s'écoute ça tout de suite. Merci beaucoup d'être venu témoigner.
Avec grand plaisir. Merci à toi.
Écoute-moi bien là. Ma conscience, écoute-moi bien. Je sais que j'ai merdé. J'ai pas fait comme on s'est promis. Je sais que j'ai merdé. Je cherchais juste un peu de répit. Ou alors j'ai craqué. Je sais pas, mais je me sens pourri. Je voudrais te repromettre pour la 330 000e fois que je vais tout remettre. Que je vais tout remettre à l'endroit. Que je vais tout faire pour que plus jamais aucun matin ressemble aux enfers où je pourrais me jeter sous un train. Écoute-moi bien là. Ma conscience, écoute-moi bien, c'est pas comme les autres fois. Cette fois j'ai compris la leçon, puis je deviens vieux là. Ça devient horriblement con, je vais mourir de ça. Les gens meurent de ça. Regarde ma mère avant moi. Je veux vivre longtemps, alors je vais arrêter l'intensité. C'est trop éprouvant, je vais apprendre à m'émerveiller devant le présent. Accepter la vie, la vraie, stopper la tornade. Découvrir qu'on est souvent fade, l'apéro sera chiant. Mais les matins sont merveilleux, je pourrais facilement me souvenir toute la veille, sans des troubéants, sans des flashs, honte de la journée. Je veux bien t'écouter, et même encore mieux, je veux bien te croire, je suis de ton côté. Bien plus que pour elle être un miroir, mais je dois te dire qu'il est possible d'être heureux sans devoir maudire une partie de ce qui nous fonde. Tu es excessif, impatient, j'ignore et teigneux. Tu es dépressif, déroutant, bizarre et bileux. C'est pas très grave, tes défauts sont bien dégueulasses, mais si tu les écrases, ils te feront de plus grandes crasses. Tu ne seras jamais ce maître yoga de la côte basque, appelons le Bichente. Tu le seras jamais parce que tu es excessif, impatient, génial et teigneux. Tu es dépressif, déroutant, bizarre et bileux. Je veux bien t'écouter, et même encore mieux, je veux bien te croire, je suis de ton côté. Bien plus que pour elle être un miroir. Et si tu t'abstiens, je te féliciterai tous les jours. Mais si tu craques, hein, je continuerai à t'aimer toujours. Pour que tu comprennes que t'as pas besoin de te cacher quand t'as de la peine, quand t'as peur ou que tu te fais chier, t'es bon quand même. Et c'est quand t'auras compris ça que ce sera facile, plus facile d'en sortir, crois-moi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, nos actions et nos projets, rendez-vous sur notre site internet asoc-lemail.net ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux sous le nom de Association Le Mail. Vous y trouverez plus de détails sur nos services et accompagnements. À très bientôt pour un nouvel épisode de Loin des clichés.